Mehdi 1, Karima, Matin Famille.
Et nous sommes en direct avec le docteur Atman Lourabi, psychiatre, psychothérapeute et secrétaire général de l'Association marocaine de psychiatrie psychodynamique pour parler aujourd'hui des parasomnies. Docteur Atman Lourabi, bonjour, un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans Matin Famille.
Bonjour Karima, merci pour l'invitation et le plaisir est partagé.
Alors docteur, on commence peut-être par une petite définition plutôt de ce que sont les parasomnies au juste.
Bah, en fait, les parasomnies, étymologiquement, ça veut dire qu'est-ce qui se passe à côté du sommeil. Et cela désigne un ensemble de manifestations qui vont intervenir au cours du sommeil, principalement, en fonction des phases du sommeil. Mais ça peut aussi survenir au moment où de l'endormissement ou au moment où on se réveille. Alors, classiquement, les parasomnies les plus connues, on va parler de ce qu'on appelle la maladie des cauchemars. C'est quand il y a des cauchemars fréquents, répétés, quasiment tous les jours. Il y a aussi ce qu'on appelle les terreurs nocturnes. Il y a le somnambulisme. Il y a ce qu'on appelle les troubles du comportement en sommeil paradoxal. Bon, on va appeler ça les rêves agités. Donc, ce sont les personnes qui parlent, qui bougent, qui gesticulent, qui frappent pendant leur sommeil. Et puis, il y a un ensemble d'autres manifestations qui ne sont pas proprement parlées des parasomnies, mais qui vont survenir au moment où, par exemple, on va se réveiller pendant une phase du sommeil où on ne doit pas se réveiller, comme la paralysie du sommeil, ce qu'on appelle la paralysie du sommeil, ce qu'on appelle en derija le bourtat. Donc, il y a un ensemble en fait, de phénomènes extrêmement variés, extrêmement hétérogènes, qui peuvent accompagner le sommeil et qui peuvent représenter effectivement des troubles à partir du moment où il y a un retentissement sur la qualité du sommeil et qu'il y a une détresse psychologique sous-jacente. C'est intéressant de le souligner, que ce soit pour personne qui les présente, mais aussi pour ce qu'on appelle le partenaire de lit, notamment quand on est des conjoints, etc. Là, notamment, par rapport au somnambulisme, par rapport aux troubles du comportement en sommeil paradoxal, il y a réellement des risques de blessures, des risques traumatiques, à la fois, je le disais, et pour la personne concernée, mais aussi quelquefois pour son entourage familial proche.
Et qu'en est-il des causes? Est-ce qu'il y a des causes justement derrière ces troubles du sommeil ou ces parasomnies?
Alors, en fait, le sommeil, valeur aujourd'hui, ça reste un grand mystère pour la science. C'est-à-dire que pour qu'on dise avec certitude pourquoi est-ce qu'on a besoin de dormir et qu'est-ce qui se passe exactement pendant le sommeil, on peut décrire les phases du sommeil, etc. Mais de là à savoir exactement ce qui se passe, je vous le dis honnêtement, la science avoue ses limites. Mais cependant, on sait qu'il y a plusieurs affections psychiatriques, neurologiques aussi et générales qui peuvent induire des parasomnies. Et quand on parle de parasomnies beaucoup plus spécifiques, par exemple le somnambulisme, on sait que le facteur génétique est prépondérant quelquefois. C'est-à-dire que c'est souvent des personnes, ce sont des familles de somnambules. Alors les études retrouvent des gènes qui sont associés plus ou moins fréquemment de manière justement assez forte à ces manifestations, par exemple le somnambulisme, mais il y a d'autres facteurs qui vont avoir un lien avec les troubles du sommeil, mais à type de dysomnie, c'est-à-dire tout ce qui est insomnie, tout ce qui est trouble du rythme du sommeil, etc., qui va aboutir au final à une dégradation de la qualité du sommeil, ou alors ce qu'on appelle une pression de sommeil trop forte, c'est-à-dire quand quelqu'un accumule beaucoup de manque de sommeil, là on peut avoir justement le somnambulisme, les terreurs nocturnes et ce genre de manifestations. Concernant les cauchemars, Bon, quand les cauchemars sont isolés, on ne va pas parler forcément de troubles, mais quand les cauchemars se répètent, etc., bon, là, le plus souvent, la raison qu'on retrouve, c'est une détresse mentale sous-jacente, qui peut être de l'ordre du trouble anxieux, qui peut être de l'ordre de la réaction à un facteur stress, qui peut être aussi de l'ordre de la dépression. N'est-ce pas? Et enfin, on va citer la fièvre. La fièvre qui peut donner, donc ça c'est quand même un état pathologique assez fréquent, mais une forte fièvre peut donner beaucoup de parasomnie, beaucoup de cauchemars, etc. Et chose intéressante aussi, c'est que bon, pour certains types de parasomnie, on va retrouver plus volontiers des personnes qui développent des troubles neurologiques, neurodégénératifs, qui sont en train de s'annoncer. Donc les causes sont extrêmement multiples. Il y a aussi, et je l'oubliais, des défauts d'hygiène de vie. C'est-à-dire que, par exemple, la pratique d'un sport trop intense la nuit peut déclencher des parasomnies, la consommation d'alcool, la consommation de somnifères, la consommation de certains médicaments, les antalgiques, les opioïdes. Donc, il y a tout un tas, justement, de facteurs extrêmement différents qui peuvent intervenir et qui peuvent tous contribuer en même temps chez une personne à l'apparition, justement, de parasomnie.
Et docteur, comment gérer, par exemple, si un enfant souffre de parasomnie en tant que parent? Est-ce que c'est différent de chez l'adulte, justement?
Justement, alors, les parasomnies chez l'enfant, on va parler principalement des terreurs nocturnes et le somnambulisme, en fait, sont relativement fréquentes chez l'enfant de moins de 10 ans. Il faut le savoir, on parle de chiffres qui sont entre 15 et 20% des enfants. C'est quand même énorme. C'est un enfant sur 6, un enfant sur 5. Et les terreurs nocturnes, donc juste pour redonner une espèce de petite vignette clinique, les terreurs nocturnes, ce sont des moments qui interviennent en première partie de nuit, en général 2-3 heures après l'endormissement, où l'enfant va s'agiter, va crier, va avoir des réactions physiologiques de peur, avec les pupilles dilatées, il va être blême, avec le cœur qui bat très vite, avec les tremblements, et avec les yeux ouverts. Et il ne sera pas accessible au contact, c'est-à-dire que même en venant le voir en tant que parent, ben on a du mal à le réconforter, on a du mal à établir le contact avec lui. C'est normal parce que c'est un trouble qui intervient dans une phase de sommeil profond, donc en fait on ne se réveille pas en apparence, mais il y a une activité motrice en apparence où on est a priori, enfin à moitié réveillé, notamment, comme je le disais, les yeux. Et c'est sans aucune gravité, j'insiste lourdement là-dessus, c'est extrêmement impressionnant quand on est un parent, parce que voilà, ça touche à nos enfants, ça touche à nos peurs, justement, de qu'il soit en train d'arriver quelque chose de gravissime sur le plan de la santé organique, qu'ils ne soient pas en train de faire un malaise, qu'ils ne soient pas en train de faire une attaque de je ne sais pas quoi. Et en fait, la réaction à avoir en tant que parent, c'est vraiment, un, de dédramatiser, de rester à côté de l'enfant jusqu'à ce qu'il puisse un petit peu émerger. Cela peut prendre 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, c'est pas court comme durée, mais parce que justement, on est très impressionné. Et ce qui est intéressant, c'est que l'enfant, en règle générale, présente une amnésie totale de ce truc. C'est-à-dire que le lendemain matin, quand on va en reparler, mais est-ce que tu as fait un cauchemar, je suis venu te voir, tu as crié, etc. L'enfant, 9 fois sur 10, va nous dire, je ne me rappelle pas. Et c'est vrai. Donc, ces terreurs nocturnes vont assez fréquemment coïncider avec des périodes de stress au niveau de la vie de l'enfant. Ça peut être un stress scolaire, ça peut être un stress familial. Quelquefois, ça peut être totalement décorrélé des événements de vie. Mais ce qu'on remarque le plus souvent, c'est que ce sont des choses qui s'amendent spontanément avec le temps, de telle sorte que, grosso modo, les enfants, après 10 ans, connaissent, en termes de fréquence et de prévalence, il y a une baisse significative de ces terreurs nocturnes et du somnambulisme chez les enfants. Et petit à petit, plus on se rapproche de l'âge adulte, plus on va retrouver des fréquences qui sont de l'ordre de 2%, 3%, hein, pour le somnambulisme. Donc c'est vraiment des pathologies qui se... Enfin, en tout cas des troubles qui se voient fréquemment chez le jeune enfant.
Et docteur, est-ce qu'il y a des complications si jamais on n'intervient pas au bon moment ou on ne soigne pas justement cette parasomnie ?
Oui, ce qui est clair, c'est que quand on parle de somnambulisme, les complications, je le disais, elles sont vraiment d'ordre traumatique et où la personne ou l'enfant peut se mettre en danger. Il y a des comportements moteurs plus ou moins complexes, hein. C'est-à-dire cela peut aller jusqu'à ouvrir la porte, sortir, déambuler dans la rue avec une absence totale de conscience, hein. On n'est pas là, donc on n'est pas à même de réagir face à des dangers. Que Dieu en préserve. Des fois, il y a des drames où la personne va enjamber balustrade et tomber d'une grande hauteur. Donc, il est extrêmement important, quand on identifie qu'il y a un somnambulisme, la règle d'or, c'est de sécuriser l'environnement de sommeil. Ça, c'est très important. On va enlever toutes les choses dangereuses, on va fermer à clé tout ce qui est possible de fermer, on va bien barrer les fenêtres, ce genre de choses. Parce que, assez souvent, c'est vraiment des phases transitoires, je le disais, qui s'améliorent toutes seules et qui n'ont pas forcément besoin d'une prise en charge médicale. Les cas les plus graves, cependant, quand on a des crises de somnambulisme quotidiennes ou même pluricotidiennes, parce que quelquefois, il y a certaines formes où on va avoir deux ou trois accès de somnambulisme en une nuit.
Ouais.
À ce moment-là, oui, la règle, c'est la consultation médicale, c'est s'assurer qu'il n'y a pas de problème neurologique. Donc, il faut toujours passer par le filtre de l'organicité, c'est-à-dire qu'il faut toujours éliminer d'autres pathologies organiques qui nécessitent une prise en charge assez rapide. Et à ce moment-là, bon, une fois qu'on est rassuré par rapport à l'inexistence de troubles neurologiques, à ce moment-là, c'est certains médicaments qui vont un petit peu modifier la structure du sommeil et différentes phases, de telle sorte à ce que justement ces terreurs nocturnes et ce somnambulisme qui interviennent particulièrement en sommeil profond, vont être améliorés progressivement.
Donc c'est à peu près le même traitement pour toutes les parasomnies.
Psychothérapie, oui, non. Quand on parle de cauchemars, justement, quand on parle de maladie des cauchemars, là, ça va être principalement, on va avancer plutôt en psychothérapie, plus ou moins aidé par des traitements en cas de dépression avérée ou en cas de troubles anxieux. Les autres causes, je le disais, c'est ce qu'on appelle la iatrogénie, c'est-à-dire tout ce qui est secondaire à une prise de médicaments X ou Y. Et à ce moment-là, il faut vraiment donner de l'importance à cet élément-là. Il faut toujours aller chercher quels sont les médicaments qui ont été pris, est-ce que ça ne coïncide pas avec l'introduction de tel ou tel traitement, etc. Donc, c'est toujours une prise en charge, je dirais, à la carte, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment en fonction de la personne, fonction du terrain médical, fonction du contexte psychologique, et même, je le disais tout à l'heure, des antécédents familiaux également.
Donc beaucoup de facteurs finalement à prendre en considération. Absolument. C'est du cas par cas, encore une fois. Ouais.
Oui, c'est du cas par cas. Les troubles du sommeil sont vraiment à cheval entre plusieurs spécialités médicales. Ce n'est pas que la psychiatrie, c'est aussi la neurologie. Il y a une autre dimension qui va être prise en charge par des confrères pneumologues ou ORL, notamment quand on parle des apnées hypopnées du sommeil, parce que très souvent les parasomnies vont intervenir sur un rythme de sommeil qui n'est pas bon, sur des gens qui sont insomniaques chroniques, sur des gens qui ont ce qu'on appelle retard de phase, sur des gens qui ont un travail posté, donc avec un travail de nuit, etc. Donc c'est toujours une prise en charge qui se doit d'être globale de la personne, justement, dans son ensemble, dans son contexte, pour arriver à soulager justement la souffrance qui est en lien avec ces phénomènes-là.
Voilà, docteur Atman Lorabi, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui en Matin Famille.
Merci à vous.
Et à mardi prochain, Inch'Allah.
Inch'Allah, bonne semaine. Au revoir.
Merci beaucoup, ciao.